Les voies de service, mercredi le 4 avril 2018. Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle émission Les Voies de service avec Daniel Lachance au micro ce matin en l'absence de notre collègue Isabelle Falardeau. Mm-hmm. Et j'ai quand même avec moi notre collègue Serge Bradet.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Serge, comment allez-vous en cette belle journée un peu mouillée?
Très bien, très bien. J'aimerais souligner à nos auditeurs qui ne voient pas que vous avez un pantalon de pyjama.
Oui, ça ressemble un peu... Ou c'est peut-être que je suis parti vite, disons. Oui, effectivement, j'ai plus un look radio que télévision aujourd'hui. Et de quoi allons-nous parler? Autre que mon pyjama.
Oui, j'ai mis la main sur une revue Capodiamant qui date de l'hiver 2002. Et en 2002, on célébrait les 50 ans de la télévision.
Ah oui?
Alors, donc c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'articles dans ça, okay, dont je vais vous parler peut-être cette semaine sûrement, et la semaine prochaine peut-être aussi.
On va continuer, oui, avec ça. Mm-hmm. Et en deuxième partie d'émission.
Même chose aussi, j'ai chose sur les qui a trait à la télévision également.
Oui. Bon, on va se payer.
Et des petits articles tout court, ah, okay, qu'on pourra... Comme nous ne sommes que deux.
Voilà. Et moi, c'est un sujet assez incontournable. Notre Céline, qui a eu 50 ans récemment, et apparemment, oui, un ORL français prédirait qu'elle a atteint ses limites vocales. Mm-hmm. On va regarder. C'est peut-être pas si alarmant. Mm-hmm. Et dans la deuxième partie, je vais vous parler un peu d'autres artistes comme M. Richard Starkey, qui a un nouveau titre. Et on va parler un peu de Bob Dylan aussi. Donc Serge, on parle de télévision.
Oui, oui, oui. Alors c'est un article de Michel Filion, donc dans le Capodiamant hiver 2002, pour les 50 ans de la télévision. Le titre de la revue, c'est « N'ajustez pas votre appareil, le petit écran à 50 ans ». Oui. Et regardez la belle image.
Ah oui.
Ouverture. Vous avez le monsieur, on va dire, il est foiré devant l'écran de télévision. Et sa femme est à côté de lui, elle tient une pelle à la main, c'est l'hiver. Alors elle aime ça qu'il aille déblayer, mais le monsieur, il veut regarder la TV.
Captivé.
Et surtout que c'est une jolie starlette dans la télé.
OK, oh, je pensais que ça aurait pu être une émission de sport, mais
non,
pas du tout.
Non, 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 non. Alors... L'implantation de la télévision au Canada est déterminante car c'est surtout à cause d'elle qu'émergea la réglementation systématique du contenu canadien dans la quête d'une identité nationale. On sait que ses coûts d'exploitation sont sensiblement supérieurs à ceux de la radio, oui, évidemment, ce qui la rend plus vulnérable à l'importation de productions étrangères. Formidable outil d'ouverture sur le monde, elle fut en contrepartie une actrice de premier ordre dans le processus d'américanisation dès ses premières années d'existence. Société distincte oblige, le Québec s'articule néanmoins un système télévisuel qui accorde une place nettement dominante aux productions locales, à cause évidemment de la langue.
Effectivement, oui.
Mandataire du pouvoir qu'exerce le gouvernement fédéral en matière de radiocommunication, ce qui fut reconnu par le Conseil privé de Londres en 1932, la Société Radio-Canada, Canadian Broadcasting Corporation, reçut en 1949 le mandat exclusif d'établir un réseau national de télévision dont les deux centres de production seraient Montréal et Toronto. Et contrairement à la radio, toutes les stations privées étaient tenues de s'affilier au réseau national, en français ou en anglais, selon le principe de la station unique. Une seule station serait autorisée à s'installer dans chaque marché, ville ou région, par marché, ce qu'on entend, jusqu'à ce que le rayonnement de la télévision canadienne soit jugé suffisant. En évitant la concurrence, ce principe visait à desservir au plus vite la majorité de la population canadienne et à lui offrir un juste dosage entre les missions d'éducation, d'information et de divertissement initialement confiées aux médias de masse électronique. Il répondait d'ailleurs aux projections les plus optimistes exprimées notamment par la Commission royale d'enquête sur l'avancement des arts, lettres et sciences, qui voyait dans le contrôle de la radiodiffusion par le gouvernement fédéral une condition suffisante pour garantir la création d'une identité canadienne et la sauvegarde de l'unité nationale. Les candidats ne faisaient pas défaut pour les grands marchés urbains. La première demande adressée à Radio-Canada par la station CKAC pour l'établissement d'une station privée de télévision remonte même à 1939. C'est-à-dire quelques années après que la presse, propriétaire de CKAC, eut tenté une expérience fructueuse de diffusion télévisuelle à Montréal. Je pense que j'avais déjà parlé il y a quelque temps. La presse avait mis une antenne sur son toit à ce moment-là pour la diffusion. À quelques jours d'intervalle, furent inaugurées en septembre 1952 CBFT à Montréal et CBLT à Toronto. À l'origine, ça, on ne se souvient pas, même moi qui est dans 50, là, j'avais 2 ans, je ne me souviens pas de ça, mais CBFT était bilingue au début, oui. Mais dès 1954, Radio-Canada en faisait une station francophone à part entière, en créant CBMT à l'intention de l'auditoire anglophone.
OK.
Alors, un phénomène semblable avait marqué l'histoire 2 décennies plus tôt, alors que le bilinguisme à la radio nationale se soit révélé un échec. On n'avait pas compris, mais on l'a refait pour la télévision. La dichotomie était consacrée et les deux solitudes desservies chacune à sa manière, ce qui, pour être déplorable et maintes fois déploré, n'en apparaît pas moins irréversible. Par ailleurs, la télévision connut au cours des années 1950 un développement fulgurant, en dépit du prix élevé de l'appareil. Soit, auriez-vous une idée?
Non,
le prix?
52, j'ai aucune idée. Non.
425 $ en moyenne.
Ça représentait...
une forte somme pour le Québécois moyen.
Plus qu'un salaire mensuel.
Oui, le revenu annuel correspondait à environ 1 300 $.
Et?
Alors, imaginez. Hein,
donc, il n'y a pas beaucoup de familles qui pouvaient se permettre
non,
ça.
Non. Je me rappelle chez moi, ça a été peut-être 57, les premières fois à télévision, on allait voir ça chez un oncle et une tante,
ouais.
Qui, eux, n'avaient pas d'enfants, c'est un couple sans enfants. Alors, il y avait peut-être un peu plus les moyens. Ils s'achetaient un téléviseur et tout le monde allait là pour regarder
moi,
la télévision.
Moi, je suis né en 55 et il me semble que je me souviens de la première télévision qui est rentrée dans la maison. Donc, je vais avoir 4-5 ans.
59.
Dans la fin des années 50, j'ai l'impression.
À la fin de la décennie, quand même, plus de 80% des ménages n'en possèdent pas moins un téléviseur.
Voilà.
C'était un achat probablement prioritaire pour les gens, peut-être même plus qu'une voiture. Le rayonnement de la télévision atteint déjà potentiellement 80% des foyers canadiens, donc, en 1955, et 85% de la population francophone en 1958, ce qui est énorme. La diffusion croît également. À CBFT, la moyenne hebdomadaire passe d'une trentaine d'heures au double avant la fin des années 1950, et ce malgré le fait que la station dut s'en remettre à ses seules ressources après être devenue totalement francophone. Pour l'essentiel, le réseau français est donc confiné au Québec, ce qui n'est certes pas sans contribuer à lui donner un caractère particulier. Montréal devient rapidement un des plus importants centres de production télévisuelle au monde.
Au monde?
Au monde, oui.
Wow.
Et CBFT constitue la clé de voûte du réseau français. Longtemps, les émissions d'enfants de Radio-Canada étaient reconnues à travers le monde.
Ah oui?
Comme les émissions les meilleures.
J'imagine à l'époque de Fanfreluche.
Oui, mais ça, jusque dans les années, je vous dirais, jusqu'à temps que Radio-Canada ait cessé d'en faire.
OK. Ils ont arrêté d'en produire.
Oui. Les stations affiliées s'approvisionnent largement à elles et donnent ainsi au réseau une grande homogénéité. Car la quasi-totalité des productions étrangères, c'est-à-dire américaines pour la plupart, évidemment, diffusées au Canada pendant les années 1950, le sont par des stations de langue anglaise, privées et publiques, qui retiennent le gros de leur auditoire avec des émissions telles que The Perry Como Show.
Oui, ça c'est...
Father Knows Best, en français,
papa
c'est
a raison.
Papa a raison. The All-Star Theater.
Oui, là, il y en a un que je vais vous nommer. Je suis certain, s'il n'est pas dans la liste, il devrait être là. C'est le Ed Sullivan Show.
C'était le prochain.
OK.
The Ed Sullivan Show.
Ça, c'était une tradition.
Ah, oui, oui.
Le dimanche soir, on allait chez ma grand-mère et fallait regarder le Ed Sullivan Show. Et j'ai vu, et ça, c'est vraiment, j'oublierai jamais ça. J'ai vu au Ed Sullivan Show la première des Beatles, la première des Rolling Stones, des Doors, tout ça. J'ai tout ça.
Ouais.
C'est incroyable. C'était toute une époque.
Oui. Et une autre émission, moi, qui me dit rien, Dragnet.
Oui, en français, une émission de policier, là. Écoute, même le thème, c'est comment ça s'appelait? Coup de filet. Ben, ça a de l'allure, c'est une traduction directe.
Ah, ben,
Joe Friday.
Ça me dit rien.
Le policier.
Non. Du reste, ce phénomène avait été prévu dans les années 1940 lors de la discussion sur l'adoption de normes techniques américaines ou européennes. Ces dernières auraient fermé le Canada aux importations américaines, mais il était toutefois impensable de dresser un mur entre le Canada et les États-Unis, comme l'affirmait avec lucidité Alphonse Ouimette, qui fut directeur général et président de Radio-Canada. Alors, la deuxième partie, je vais vous la lire un peu plus tard.
Okay.
D'accord.
Merci à Jean-Sébastien. C'était en effet le thème de Dragnet. Et mais ça, oui, j'ai
Je me souviens de la musique, mais je me souviens pas de la série.
Et écoute, le policier, c'était Joe Friday, je suis pas mal certain, la vedette. Puis ça commençait, t'avais la musique, puis t'entendais, en tout cas en français, il y avait la traduction en français qui s'appelait Coup de filet, puis ça commençait genre Los Angeles, 20 millions d'habitants, chaque minute un crime y est commis, blablabla. Puis là, il y avait toujours. Ça prenait tellement sérieux que ça en était drôle.
Oh, ouais.
C'était pas une comédie. C'était pas une comédie. Donc, pour en revenir à nos choses plus actuelles, l'article que j'ai trouvé dans Le Figaro, qui parle de Céline Dion, et c'est titré « À 50 ans, Céline Dion a atteint ses limites, comme tout athlète de la voix ». Mais il faut faire attention, « a atteint ses limites », ça ne veut pas dire qu'elle est finie.
Ben non, j'espère, ben oui.
Selon Jean Habitbol, otorhino-laryngologue, on va dire ORL, j'ai toujours de la misère à dire ce mot-là, qui a suivi la diva plusieurs fois. Les fans n'ont cependant pas à s'inquiéter des dernières annulations de concerts, parce qu'on sait que récemment, elle a annulé plusieurs concerts.
Mais je pense qu'elle est assez annulée jusqu'à...
Oui, elle est en convalescence. Oui,
à peu près,
je pense qu'on va le voir plus loin. Sa voix superbe sera remise pour son retour sur scène en juin, grâce à son hygiène de vie remarquable, estime-t-il. 38 ans de carrière, 250 millions d'albums vendus à travers le monde, 7 Grammy Awards... La carrière de Céline Dion n'est plus à présenter à travers le monde. Dans une impasse depuis le début de l'année, pour cause de problèmes de santé, la chanteuse a dû annuler plusieurs concerts dans son fief du Caesars Palace de Las Vegas, où elle se donne depuis 15 ans. Les fans de l'interprète dont ne change pas ont rapidement et massivement exprimé leur inquiétude sur les réseaux sociaux. Fragilisée depuis la mort de son époux et agent René Angélil il y a 2 ans, l'angoisse d'une possible fin de carrière de leur idole planait dans tous les esprits. Le public a appris avec effroi que Céline Dion est atteinte d'un trouble à la trompe d'Eustache depuis 1 an. Une maladie qui lui cause des irrégularités auditives et rend le chant extrêmement difficile, précisent ses agents dans un communiqué Facebook publié le 22 mars. Fatiguée, Céline Dion a pris la décision d'annuler 2 mois de concert, soit 14 représentations, jusqu'au 18 avril, pour un retour annoncé le 22 mai. La chance n'a pas été de mon côté dernièrement. J'avais tellement hâte de remonter sur scène et voilà que je me retrouve encore malade, déplore la chanteuse. Selon Jean Habitbol, ORL...
Comment, c'est quoi la profession?
ORL. Otorino. Ici, on dit otorino-laryngologiste. Les autres, ils disent otorino-laryngologue.
C'est le truc.
Mais ologue ou ologiste, c'est la même chose. Donc, selon ORL, basé à Paris, qui a suivi Céline Dion depuis plusieurs fois durant sa carrière, il n'y a cependant pas de quoi s'inquiéter. J'ai plus de misère avec cependant qu'avec otorino. La voix existe seulement si vous avez un contrôle de votre audition. Dans le fond, c'est logique. Lorsque vous vous entendez chanter, vous entendez le circuit interne qui fait vibrer vos cordes vocales par la trompe d'Eustache. Quand il y a une altération de l'audition, le chanteur a une difficulté à pouvoir harmoniser sa voix, explique le médecin au Figaro. Les problèmes de santé que Céline Dion a connus depuis le début de l'année, et notamment une irritation à la gorge, peuvent en être la cause. L'artiste va maintenant devoir subir une intervention chirurgicale pour soigner sa trompe d'Eustache. Dans plus de 90% des cas, un traitement médical simple suffit. On a essayé tous les traitements possibles chez elle, mais ça n'a pas marché, explique Jean Habitbol. Elle ne va pas subir une intervention chirurgicale au sens propre. On régule seulement la pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'oreille moyenne avec un petit drain dans l'oreille qui permet d'équilibrer ces deux éléments. Mmh. Donc, on ne parle pas d'une grosse opération.
Mmh. Non, ouais, bon. Mmh.
Ce n'est pas la première fois que Céline Dion est touchée par ce trouble de la trompe d'Eustache, d'après le spécialiste. En temps normal, elle le soigne assez rapidement et aisément par un traitement médicamenteux. Elle a atteint ses limites, comme tout athlète de la voix, d'où le titre mm-hmm. de l'article. Elle était obligée de dire stop pour éviter un incident ultérieur plus important qui aurait pu pâtir à sa carrière, raconte Jean Abitbol. Au fur et à mesure des années, le système immunitaire est plus fragile et l'entraînement, les concerts, les voyages moins aisés à supporter pour elle. L'ORL ne doute cependant pas une seconde que la chanteuse fera avec brio son retour sur scène le 22 mai, il l'a dit tantôt, mm-hmm. et continuera dans la même lancée sa tournée en Asie en juin. Céline Dion a une voix superbe et a su parfaitement gérer sa carrière comme une athlète. Elle a une hygiène de vie remarquable, il n'y a aucun risque pour sa voix. Mmh. Elle a pris une marge de sécurité importante car elle a la tête sur les épaules et connaît ses limites, rapporte le docteur. Il semble que Céline Dion compte profiter de ses 2 mois de repos pour se retrouver en famille. Dans une interview accordée au magazine australien Stellar, elle a avoué imaginer célébrer son anniversaire lors d'une soirée au calme avec ses enfants. Peut-être que j'irai au bowling ou au cinéma et qu'on restera dans mon lit à regarder des chaînes Disney, s'amuse-t-elle. Ça, elle l'a déjà fait, j'imagine, sans son adversaire est passé. La diva québécoise en profitera certainement pour continuer de peaufiner son dernier album, dont elle a débuté l'enregistrement en juin dernier, selon le Journal de Montréal. On peut s'attendre à un retour triomphant de la chanteuse après le succès d'Encore un soir en 2016 et ses 700 000 ventes en France. Et l'article se termine en disant « Qui sait, l'appel de Maître Gims pour un duo avec la star aura peut-être été entendu. » Je suis allé voir Maître Gims de son vrai nom, Gandhi Juna. C'est un rappeur, chanteur et compositeur congolais. Né le 6 mai 1986 à Kinshasa. Il fait carrière en France et il aurait dit dernièrement au Figaro le 29 mars « J'aimerais collaborer avec Céline Dion ou Mylène Farmer. Mm-hmm. » Voilà.
Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là
très peu besoin de présentation. Céline Dion, bien sûr, qui reprenait cette grande pièce de Jacques Brel, « Quand on n'a que l'amour », à l'origine Jacques Brel, paru en 1956. Et ça, c'est un extrait de Céline Dion à l'Olympia, un album de 1994.
Toute une voix, quand même. Hein?
Oui, 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 c'est impressionnant.
Oui. Donc, on reparle de télévision?
Oui, télévision, c'est la suite de l'article de tout à l'heure sur les origines de la télévision québécoise. Alors, cette partie-là s'intitule « Les productions québécoises ». Qu'on en juge par la télévision, les sources d'information, indigènes à plus de 90%, auraient permis aux Québécois de se créer une véritable place publique, puisque des émissions documentaires et d'affaires publiques telles « Pays et merveilles » et « Les idées en marche » réunissent au Québec des auditoires considérables, tandis que les moyens de divertissement, d'origine très majoritairement québécoise, encouragent eux aussi la constitution d'une culture populaire. L'immense popularité des téléromans témoigne certainement de l'interaction entre les médias et l'expression d'une personnalité québécoise. Pour ne nommer que ceux-ci, Le Survenant, Capot sorcier, Les belles histoires des pays d'en haut, Pension Velder, Chenal du Moine et, évidemment, La famille Plouffe, constitue un véritable phénomène de société qui imprègne la vie quotidienne des Québécois francophones. L'identification à certains personnages est à ce point forte qu'on parle même à l'occasion d'une confusion entre la réalité et la fiction qui remonte au temps de la radio et des radioromans. D'ailleurs, je sors un peu du texte ici pour vous dire, là, dans les belles histoires des pays d'en haut étaient diffusées, vous allez le dire vous aussi,
oui,
ça.
Je me souviens
Donalda, Radio-Canada recevait pour Donalda des boîtes de vêtements et de nourriture.
Il y a du monde qui pensait qu'elle
était
dans la misère.
Oui, et ça a duré longtemps, pas juste un an, là, ça a duré plusieurs années. Alors, en un sens, la nécessité d'un service national pour assurer la diffusion d'un contenu canadien se vérifie certainement mieux au Canada anglais qu'ailleurs. Ceci peut paraître paradoxal puisque la canadianisation des ondes y fut un demi-échec en comparaison avec l'éclatante réussite au Québec francophone.
Peut-être parce que c'était plus facile pour les anglophones de recevoir la télévision américaine.
Il n'y avait pas de barrière de langue.
Ici, on écoutait plus
la
télévision française, c'est normal.
C'est ça, oui, oui. C'est exactement ça. C'est que, sous un aspect fondamental, le contexte est différent. Le dumping américain menace plus la télévision canadienne-anglaise parce que la langue constitue une barrière au Québec, justement. La réglementation en matière de contenu canadien, qui surviendra à la fin des années 1950, apparaît donc à première vue largement superflue en ce qui a trait au Canada français. Cette réglementation, tout comme le service national, devait être une création pan-canadienne. On sait pourtant que le service de radio-télévision francophone fut très concentré au Québec et qu'il s'est distingué au point de ne pas donner prise aux graves problèmes d'américanisation. Le transfert linguistique vers la station anglaise est d'ailleurs limité. Notons que celui des anglophones vers les stations de langue française l'est plus encore, puisqu'elle se résume à peu près à l'écoute de l'émission La Lutte. Parmi les émissions les plus populaires au Québec en 1955-1956, quelques-unes seulement sont diffusées par le réseau anglais, dont The Ed Sullivan Show et The Annie Mooners, émission américaine dont la renommée dépasse les frontières. Mais elles ne font pas partie des émissions qui rejoignent 250 000 foyers et plus. Celles qui connaissent un tel succès d'estime sont produites au Québec, les Ploufs, qui atteint le chiffre extraordinaire de 330 000 foyers, alors qu'il y a 250 000 foyers qui ont la télévision. Alors qu'à peine un demi-million de téléménages québécois possèdent la télévision. Même dans la région d'Ottawa Hull, particulièrement sensible au transfert linguistique, ce sont les émissions que diffuse le réseau français CBOFT qui conserve les plus grosses cotes d'écoute. Alors, avec la demande populaire pour la télévision, la participation accrue de l'industrie privée devenait inévitable, fondée sur une interprétation subtile du rapport de la Commission royale d'enquête sur la radio et la télévision, la loi canadienne de la radiodiffusion de 1958 autorise la constitution de réseaux privés de radio et de télévision.
OK, donc alors, c'est là qu'on a vu apparaître télémétropoles.
Oui, alors c'est ainsi qu'apparaîtra notamment CTV au Canada anglais et TVA au Canada français.
Télémétropole avant de s'appeler TVA.
Le 10. Alors, pour faire contrepoids à la commercialisation de la télévision qui s'amorce au début des années 60, des règlements ont été imposés par les organismes de contrôle successifs, notamment ce qui a trait au quota des programmes étrangers. Sans entrer dans les détails de cette réglementation complexe et changeante, on peut dire qu'elle a toujours échoué pour être trop évasive. Maintenant, vers la fin de l'article, le Oui, allons, un mot de la... Le président de la Canadian Broadcasting Corporation déclarait en 38 qu'en dépit de l'amertume ressentie par certains Canadiens à l'endroit de la diffusion d'émissions américaines, nous appartenions, volontairement ou non, au continent nord-américain. Mm-hmm. On ne pas l'oublier. Et à la civilisation américaine. Ce point de vue d'un partage de la culture états-unienne apparaît irrecevable pour les Québécois de langue française. L'existence même d'un réseau de radio et de télévision de langue française témoigne d'une différente américanité. Cette réalité est d'ailleurs confirmée par le comportement des téléspectateurs, mais le rôle du public est trop souvent négligé au profit de celui de facteurs plus aisément identifiables, tels les politiques qui déterminèrent la structure juridique des médias. Pourtant, même à ce sujet, la radiodiffusion québécoise est certainement celle qui cadre le mieux avec l'esprit de la loi qui, depuis sa refonte en 91, remplace le concept d'unité nationale par celui de souveraineté culturelle. Paradoxalement, eu égard aux objectifs nationaux assignés à la radiodiffusion depuis ses origines, elle fut la seule à exprimer aussi clairement la réalité canadienne.
Et voilà, on va en reparler tantôt, j'imagine. Oui. Donc, ceci met fin à la première partie de l'émission Les Voix de service du 4 avril 2018. On vous revient dans 2 minutes après la pause.
Midi. I listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for you knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock a-ticking on the mantel shelf. See the hands a-moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight, why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, I love only you. You'll never know it hurt me so. So unfair. You were in a car crash and you lost your hair. You said that you would be late about an hour or two. I said, that's all right, I'm waiting here, just waiting to hear from you. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, darling, I love you.
La folie musicale des Beatles, Don't Pass Me By, un extrait de l'album blanc.
Écrite par Sir Richard Starkey, mieux connu sous le nom de Ringo Starr. Une des très rares collaborations de Ringo Starr. D'ailleurs, je pense, on en avait parlé tantôt. Je pense qu'il y en a écrit deux pour à son époque des Beatles. Celle-là et Octopus Garden.
Écrit par lui uniquement, oui. Il a fait quelques collaborations, mais uniquement de sa plume, c'est une des rares.
Il a eu sa carrière solo ensuite. Il en a écrit quelques-unes. Mais à l'époque des Beatles, celle-là était sur l'album blanc. Il y avait Octopus Garden sur Abbey Road, mais après ça... Donc, un article que j'ai vu dans le Rolling Stone magazine qui a été publié le 22 mars, donc il y a une semaine environ. Sir Richard Starkey, c'est ainsi qu'il faudra appeler l'ancien Beatle Ringo Starr, qui a été anobli par le prince William à l'âge de 77 ans.
Oh, on n'aurait plus.
Non, pas
on
le prince plus. William, là, c'est Ringo qui a 77 ans. Reçu à Buckingham Palace mercredi 21 mars, le célèbre batteur a été fait chevalier 21 ans après Paul McCartney. On a parlé de musique, a confié le batteur. Le prince William m'a dit qu'il adorait les Beatles. Moi, je l'ai félicité sur son futur bébé. Je lui ai dit que je savais de quoi je parlais. J'ai eu aussi 3 enfants. J'aurais aimé que tous les Beatles soient là aujourd'hui. John et George me manquent beaucoup, a-t-il déclaré. C'est que... George, ben on va le voir plus loin. Fier de cette consécration, l'ancien batteur de la bande du Cavern Club, Cavern, c'est l'endroit où ils ont joué beaucoup dans les débuts avant de devenir populaire, a annoncé qu'il ne passerait pas un seul instant sans sa médaille d'anoblissement, quitte à la porter même au petit déjeuner.
Ben là, franchement.
Question de fierté.
Ouais.
Alors que John Lennon et George Harrison sont respectivement décédés en 1980 et 2001, Ringo Starr est le second membre du groupe à recevoir une telle distinction. En 1997, Paul McCartney avait été anobli par la reine Elizabeth lors d'une cérémonie à Buckingham Palace. Il ne faut pas le confondre, les 4 Beatles avaient été nommés membres de l'Empire britannique.
Oui, c'est ça j'allais vous...
Et voilà, c'est ça la distinction-là. Être anobli, c'est pas la même chose. Okay. Ce qu'ils avaient reçu avant, c'est le MBE.
Oui, ça avait créé toute une commotion parmi la gentry britannique. Il y a même des gens, des membres qui avaient retourné leur décoration.
Absolument.
Qui étaient
pas du tout d'accord avec... et d'ailleurs, John Lennon, plusieurs années plus tard, avait remis lui aussi.
Non, ben coudonc.
Il n'avait pas du tout aimé ça. Voilà pour Richard de Starkey.
Yeah.
un des premiers succès de sa carrière solo, Ringo Starr, It Don't Come Easy, autre pièce qu'il a composée et semble-t-il qu'il aurait eu l'aide, mais ce n'est pas reconnu officiellement, de George Harrison, qui a également joué la guitare sur cette pièce.
Absolument, et puis si on le connaît bien, on le reconnaît assez facilement parce qu'on entend, c'est vraiment du slide guitare qu'on entend dans It Don't Come Easy, c'était sa signature. Donc, Serge, on continue avec la télévision.
Dans la télévision, oui. Toujours de cette revue Capot Diamant de l'hiver 2002. Un métier qui a pas disparu, mais dont on parle beaucoup moins, réparateur de télévision.
Ah, effectivement.
l'article s'intitule « Marcel Plante, réparateur de télévision ». C'est un article d'Yves Laberge. Alors, l'avènement de la télévision a considérablement changé les pratiques et la vie sociale de plusieurs générations, surtout ceux qui ont grandi avant la télévision et qui ont vécu la transition entre l'âge de la radio et celui du petit écran. L'arrivée des téléviseurs a forcé le réaménagement de l'intérieur des maisons, des cuisines et des salons. La place d'honneur revenait à la télévision. Avant, c'était la radio, la place d'honneur. La gestion de nos loisirs et de nos temps libres était bouleversée, tout comme plus tard, le baladeur et le téléphone cellulaire ont également modifié nos habitudes et notre façon d'appréhender les moyens de consommation. Partout où la télévision s'est implantée, de nouvelles professions ont rapidement été créées, caméramans, techniciens, éclairagistes dans les studios, marchands d'appareils dans les magasins spécialisés et par conséquent, réparateurs de télévision. Beaucoup de ces techniciens avaient d'abord été formés à la réparation de radio à lampe et ont adapté leur métier en ajoutant cette corde à leur acte. Le parcours du technicien Marcel Plante demeure exemplaire. Excusez-moi.
C'est l'émotion, hein?
Ouais. Il a consacré sa vie à la réparation de téléviseurs et a été, sous bien des points, un innovateur. Les souvenirs de cette carrière nous permettent de constater comment la télévision a modifié nos modes de vie. C'est un peu par un concours de circonstances imprévues que ce mécanicien d'automobile est devenu spécialiste des téléviseurs. À la suite d'un accident qu'il garda immobilisé durant plusieurs mois, Marcel Plante choisit de suivre un cours par correspondance sur la réparation des radios. Il obtient son diplôme du Boston College en 1948 et 80 ans plus tard, il suit un autre cours à distance sur la réparation de téléviseurs. Et je pense que mon père a suivi ce cours-là, je me rappelle, moi. Il réparait des... Et puis il avait à un moment donné reçu un gros livret d'instructions, là, puis il regardait ça. Marcel Plante ouvre son premier atelier en 1952, d'abord dans la 10e rue à Limoilou, puis en 1958 dans la 11e rue, dans la partie avant de la maison familiale, située dans le même quartier de la Basse-Ville de Québec. Au début, il y répare principalement les radios de salon et les radios d'auto, mais il commence aussi à faire l'entretien des téléviseurs. Au début de la télévision, les premiers appareils domestiques étaient neufs et tenaient le coup. Mais après quelques années, les ennuis survenaient, les lampes faiblissaient et les réparations devenaient nécessaires, comme pour les vieilles radios. Les marques de téléviseurs étaient variées, Philco, RCA, Dumont, Crossley, Admiral. Dumont et Crossley, moi, ça me dit rien.
Non, mais Admiral, ça, je me souviens.
Oui, Philco, RCA aussi. Oui. Contrairement à aujourd'hui, ces appareils étaient massifs et lourds. Si vous vous rappelez, oui, c'est ça, c'était... Les armatures étaient en acier et les meubles en bois véritables. La plupart provenaient des États-Unis et non du continent asiatique, comme ça se fait aujourd'hui. On les achetait chez le marchand du quartier ou dans les magasins de meubles. À la maison, on plaçait le téléviseur neuf à l'endroit où se trouvait l'ancienne radio de salon, qui était souvent un meuble massif tout fait de bois. Beaucoup de radios à lampe ont été jetées, faute d'espace, ou parce que certains modèles combinés contenaient le téléviseur, la radio et également le tourne-disque. Mm-hmm. La détérioration des téléviseurs survenait normalement après combien de temps?
5 ans.
2 ou 3 ans. Assez rapide,
oui.
Hein?
Oui. Les lampes, ou? Il me semble que les lampes, ça dure plus longtemps.
Un problème d'image déformé au moins net, une intermittence du son, ou pire, le noir complet.
Ah, ça, c'est pas drôle.
Évidemment, la plupart des familles ne possédaient qu'un seul téléviseur et la panne signifiait la privation totale. L'achat d'un téléviseur pouvait représenter, comme on l'a vu dans la première partie de l'émission, plus de 400 $, soit le salaire de plusieurs mois. Il fallait donc envisager la réparation lorsque celle-ci devenait inévitable. Les embûches étaient nombreuses. Les téléviseurs étaient souvent lourds, encastrés dans de gros meubles, que l'on ne pouvait transporter que difficilement dans un camion ou une remorque.
Ah oui.
Oui. L'atelier de Marcel Plante était la plupart du temps encombré de nombreux appareils en panne. Sur chacun se trouvait un bout de papier portant le nom du propriétaire et le type de problème. Pas de son, ou l'image saute, ou encore l'image s'en va au bout de 10 minutes. où l'image va de droite à gauche aussi.
Ah oui. Oui. Mais je me souviens que l'image, quand on dit l'image saute, c'est que ça, ça tournait de bas en haut. Là. C'est
oui,
comme
oui,
si
j'ai connu ça. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on ne voit plus ça.
Non, c'est le même principe.
Faute d'espace, plusieurs téléviseurs devaient rester sur le balcon d'en avant.
Oh.
Ils étaient tout simplement trop larges pour franchir le seuil de l'entrée et trop massifs pour circuler dans le couloir.
Les portes n'étaient pas assez.
Oui, la réparation devait avoir lieu sur le balcon et ce, même en plein hiver. Alors, Marcel Plante était rapidement devenu un maître dans l'art de trouver le problème. Une file d'attente faite de géants. Comme l'espace du balcon était limité, il fallait gérer le nombre d'appareils à réparer. Donc, le système de rotation était simple. Lorsqu'il y avait une disponibilité, Marcel Plante téléphonait à un client qui lui avait préalablement signalé une panne. « Vous pouvez m'apporter votre appareil demain matin. J'aurai une place pour vous. » Un peu comme au garage. Hein?
Mm-hmm.
Le propriétaire de l'appareil prenait, attention, une demi-journée de congé, convoquait son frère, son ami, son voisin et son aîné pour déplacer le meuble et le conduire chez le réparateur. S'il ne pouvait se libérer au moment prévu, un autre client risquait de prendre sa place. Dans les meilleurs cas, la réparation pouvait avoir lieu en une journée, mais quelquefois, les délais pouvaient atteindre 3 mois. Ça, c'était dramatique.
3 mois, pas de télévision.
Ouais, ouais.
Il y en a qui ne survivraient pas à ça. Là.
La question la plus souvent posée par les clients était prévisible. Avez-vous une idée?
Combien ça va coûter?
Non. Non, 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 non. Est-ce que ma télévision sera prête pour...
Demain.
Samedi soir.
Ah, là, OK.
Ben oui. C'était le soir de la télédiffusion de la dernière moitié de la joute de hockey des Canadiens de Montréal. Il semblerait qu'à ce moment-là, c'était juste la moitié qu'on passait. Pince sans rire, Marcel Plante... Ça, j'aurais bien aimé ce monsieur-là, moi. Pince sans rire, Marcel Plante contactait par la suite ses clients d'une voix grave. « Votre télévision est finie. » Cette nouvelle alarmante créa une commotion immédiate. « Fini! Est finie, ma télévision? » demandait le client incrédule. « Oui, reprenait Marcel Plante. » « Est finie, est réparée, voyons! »
Ah, méchant farceur!
j'adore ça. En fait, le test servant à vérifier l'état d'un téléviseur était le fonctionnement ininterrompu. Mm-hmm. Il laissait le téléviseur réparé, allumé, durant une journée entière. Après ce délai, il pouvait contacter son client. La journée du samedi servait principalement à la rotation des appareils réparés et en panne.
Mais il me semble que quand j'étais jeune, les réparateurs de télévision se déplaçaient.
Oui, venaient à la maison. Ouais, à la maison aussi,
c'était
oui.
vraiment
oui.
un problème de déplacer ces meubles-là.
Oui, 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 oui. Mais ça, c'était... Il n'y avait peut-être pas le... Ça, c'était à Montréal, ils se déplaçaient. Ouais.
Peut-être que lui, il était assez indépendant, qu'il se disait, ouais. Oh, les clients vont venir chez nous.
Peut-être pas. Ben, s'il y avait tant d'ouvrages que ça, tu sais, ouais. le... Parce qu'on regarde, là, c'est... il était occupé, le monsieur. Tu sais. Alors, une télévision de reconnaissance. Initialement, les habitudes de la population étaient assez uniformes en matière de fréquentation des médias. Ceux qui pouvaient écouter la radio durant le jour et la télévision après le souper.
Mm-hmm.
Car au début, la télédiffusion des émissions de semaine débutait en fin d'après-midi. C'est vrai. À cours de 4 heures à peu près, parce que c'est les émissions pour jeunes.
OK, ouais.
Boîte à surprise.
Oui, effectivement.
Bobino,
on venait de l'école, puis là, il ouais, y avait Bobino. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Après ça, on a monté ça un peu à 1h l'après-midi avec Femme d'aujourd'hui. Mm-hmm. Je me rappelle, on m'a écouté ça. Et dans la matinée, là, ça a pris quand même beaucoup de temps.
Il y avait le samedi matin.
Oui, oui, oui. Certaines émissions étaient très populaires. Les nouvelles, la lutte, le hockey, les téléromans. Non seulement les émissions en contenu canadien recevaient la plus grande attention de la part des auditoires québécois, mais les émissions locales figuraient toujours parmi les préférées, comme on l'a vu tout à l'heure. On aimait voir à l'écran une personne que l'on connaissait personnellement. Des vedettes régionales, des lieux familiers. On déclarait fièrement « Je le connais, c'est un tel! » C'était un honneur de passer à la télé, hein? Et souvent un choc de se voir à l'écran pour la première fois.
Aujourd'hui, il y a YouTube.
Oui.
On est moins impressionnés.
Les premiers auditoires étaient fascinés par la télévision. Les gens de cette génération se rappellent tous de leurs premiers souvenirs de télévision. Même les gens pensaient que quand ils réagissaient dans leur salon, aux commentaires,
ouais,
la personne les voyait.
Oui, ouais.
Comme souvent, quand intimidant. La radio commençait, les gens répondaient. quand le comédien disait ben, bonjour, bienvenue à l'émission. Ah ben bonjour, on est. Ouais, je suis content de vous entendre aujourd'hui. T'sais, les gens dialoguaient avec le. Ben, c'est cute.
Ben, ouais.
Ben, ouais. Une anecdote révélatrice m'a été racontée par Mme Plante. Un soir vers 1953, un autobus passe dans la 10e rue de Limoilou, devant le premier atelier de M. Plante. Un téléviseur est en marche dans la vitrine. On y diffuse le match d'un championnat de boxe et les passants peuvent voir l'écran allumé. Le chauffeur s'arrête et se laisse absorber par le spectacle en oubliant ses passagers. au bout de 2 minutes, toutefois, l'image fait défaut. Le chauffeur reprend ses esprits et redémarre tout en saluant le couple. Bye-bye! qui s'inquiétait d'entendre s'arrêter un autobus car il n'y avait pas d'arrêt devant chez eux. Évidemment, l'événement de la télévision en couleur en 67 amène beaucoup de gens à changer de téléviseur et parfois à conserver l'ancien modèle qui allait au sous-sol pour les jeunes. Puisqu'il existait plusieurs chaînes et que le câble offrait différents postes, les problèmes se complexifient. Plus tard, avec l'apparition des nouveaux modèles de téléviseurs à circuit intégré, Marcel Plante réalise que sa profession change fondamentalement et qu'un jour, son métier ne sera plus aussi nécessaire. Donc, l'électronique remplace désormais les fils et les lampes. Et oui. C'est parce que c'était des télévisions à lampes. Hein. C'était ça le problème. Alors, lorsque Marcel Plante ferma sa boutique en 1990, il se consacra encore à la vente de lampes et de plans de radio d'époque.
Ah.
Oui, ben, comme il y a des voitures d'époque, ben oui. Il y a des... Moi, il y a un ancien employé de Radio-Canada qui collectionnait les radios, lui. Et il m'avait montré des photos. Je pense qu'il y en avait comme 150 appareils radio. Mais c'était magnifique. Hein, des appareils qui ont disparu aujourd'hui. Là, lui, dès qu'il savait en quelque part qu'il y avait un vieux radio, là, il allait le chercher. beaucoup de gens apprécient ces beaux meubles stylisés et restent attachés à la sonorité des radios à lampes. C'est vrai que le son est
c'est différent.
Mais aujourd'hui, par contre, il n'y a plus de téléviseur à lampe. Et d'ailleurs, personne n'a envie de faire réparer ou d'acheter un téléviseur en noir et blanc. Ils ont pratiquement disparu du marché. Alors, c'est l'épouse de M. Marcel Plante, Mme Denise Robitaille, et son fils Michel Plante qui m'ont aidé à reconstituer le portrait de cet homme admirable, aujourd'hui gravement malade, donc en 2002. J'ai eu moi aussi l'occasion de le rencontrer à maintes reprises et d'apprécier sa gentillesse et sa générosité. Je remercie la famille Plante de Québec de son aimable collaboration. C'est l'article d'Yves Laverge.
C'était le thème de Ed Sullivan Show, hein, je pense. Oui, ça rappelle vraiment les débuts de la télévision. Un article que j'ai trouvé dans le rollingstone.fr, la Fender Telecaster de Bob Dylan, bientôt mise aux enchères. Fender Telecaster de 1965 que Bob Dylan a partagé avec le guitariste du band, en fait c'est le groupe de band qui accompagnait Bob Dylan, Robbie Robertson, sera mis aux enchères le 19 mai prochain à New York, avis aux intéressés. La Fender Telecaster de l'aussi mythique controversée tournée de 1966 qui marqua le passage de Bob Dylan de l'acoustique à l'électrique va être mise aux enchères. Ces dernières auront lieu le 19 mai par Julian's Auction, qui chaque année organise la vente d'objets du monde de la musique à New York. L'an passé, des guitares de Django Reinhardt et de Pete Townshend avaient trouvé preneur. Cette année, la guitare électrique qui a accompagné Dylan sur sa tournée de 1966 devrait rapporter... Donner une idée à peu près? Alors, c'est une approximation. Les enchères n'ont pas eu lieu encore.
Beaucoup de sous.
entre 400 et 600 000 $. Un petit peu exagéré, mais bon, il y a des vrais collectionneurs. Comme des collectionneurs de radio, au lieu d'en avoir 150. Il va peut-être en avoir juste ça. Une somme qui sera reversée à l'American Indian College Fund, qui a pour but de développer le système éducatif dans les réserves indiennes aux États-Unis. Notre collègue Isabelle aurait apprécié cette
Oui.
Bob Dylan a utilisé cette Fender Telecaster au cours de sa première tournée électrique en 1966 avec son groupe, alors nommé The Hawks, rebaptisé et devenu ensuite le fameux The Band. Tout au long des années 60 et 70, Bob Dylan et le propriétaire historique de la Telecaster, le guitariste du band Robbie Robertson, se partageront l'instrument. En 2013, la Fender Stratocaster, pas la même, un autre modèle... du premier concert électrique de Bob Dylan au Festival Newport de 1965, avait elle aussi été mise aux enchères. L'instrument avait trouvé preneur pour la modique somme de... J'en reviens jamais quand je vois des chiffres comme ça, j'ai l'impression que c'est une erreur, là, de zéro et pas à bonne place. 965 000 $.
Ben c'est un million, ça?
Ouais.
C'est...
J'espère que les cordes étaient neuves. Je sais pas, là, mais... que la courroie est incluse, avec une méthode puis un pic, je sais... Cette guitare a été sur la ligne de front de tant d'événements phénoménaux, je la regarde avec étonnement. Quand je pense à toute la créativité dont cette guitare a fait partie, je suis encore ébloui. Ça, c'est Robbie Robertson qui le dit. Et ça, je peux comprendre que quelqu'un, comme exemple, la guitare que Jimi Hendrix a fait brûler au Festival de Monterey, ça, je peux comprendre que les gens ont un engouement pour ça. Mm. Dans un musée, pas payer un million pour avoir ça dans ton salon. Bon, c'est mon opinion. La guitare qui sera en vente lors des enchères le 19 mai a été utilisée sur une poignée d'enregistrements de Dylan, parmi lesquels Blonde on Blonde, j'ai toujours de la difficulté à dire.
Blonde on Blonde.
Et The Basement Tapes. Robbie Robertson l'a pour sa part notamment utilisé en studio sur les albums Music from the Big Pink ou encore The Band et en live lors des sets du groupe à Woodstock et l'île de Wight. Les doigts d'Eric Clapton, de George Harrison et Lee Von Helm ont également parcouru le manche de cette Telecaster qui représente à elle seule tout un pan de l'histoire du rock. Donc, vous avez encore quelque chose pour...
Oui, quelque chose qui va vous... vous allez tomber en bas de vos chaises.
Bon, OK.
Son et lumière atomique, ça se peut-tu?
Ah!
Ouais,
atomique.
La scène, datée de 1953, est surréaliste et fait froid dans le dos. Une mère et son enfant, confortablement installés devant leur fenêtre, regardent fascinés le spectacle qui leur est offert au petit matin. Il ne s'agit pas d'un feu d'artifice, mais d'une explosion atomique. Et le nuage que l'on distingue à l'horizon, en guise de bouquet final, est un champignon atomique. Les habitants de Las Vegas ont l'habitude de cette attraction mensuelle.
Des essais?
Car presque tous les mois, un avion militaire lâche une bombe atomique dans le désert du Nevada, à une centaine de kilomètres de la ville. De 1951 à 1963, 100 essais nucléaires aériens auront lieu sur la base militaire Nevada Test Site. On se presse pour y assister, et très vite, business is business, comme les Américains sont forts sur ça, les hôtels flairent la bonne affaire touristique. De grandes soirées sont organisées à l'occasion de ces tirs, et le public adore un verre de cocktail atomique à la main. Une recette détonnante, sans mettre plein les yeux. Un rendez-vous que les aficionados ne manqueraient sous aucun prétexte et qui est, les autorités l'assurent, sans aucun danger.
Sans aucun danger, il assurait ça.
Mais c'est à 100 km de distance. Ouais. En tout cas, j'en reviens pas.
J'aurais été quand même un peu plus prudent, moi. Je ne sais pas si je dirais sans danger.
Puis regardez, on voit la photo. Regardez la photo ici, là.
Oui,
c'est sûr.
J'imagine que par curiosité, ça doit être quelque chose. Ouais. Moi, j'ai rasé voir le lancement de la première navette spatiale Columbia.
Oui.
J'étais là, juste à côté, à Cocoa Beach. Et le lancement avait été remis au lendemain. Et je me suis réveillé le lendemain à 7h30, heure du lancement. C'est ça qui m'a réveillé. Et il était déjà trop haut. Pour que je...
Mais vous n'avez pas été secoué par
ouais,
le...
C'est ça.
C'est pareil, c'est assez impressionnant quand ça part.
Absolument.
Hein.
Donc, ceci met fin à notre émission Les Voix de service du 4 avril 2018. Merci à Serge Bradet pour l'histoire de la télévision. C'était fort intéressant. Il y a certaines choses que je savais déjà, mais beaucoup je ne savais pas du tout. Merci beaucoup à Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde, choix musical, les commentaires et tout ça. Et moi-même, Daniel Lachance et Isabelle Falardeau, qui n'étaient pas avec nous aujourd'hui. On devrait la revoir la semaine prochaine. Je ne pense pas que c'était une maladie.
Espérons.
Bonne journée à tout le monde.